IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, pour toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Transition énergétique, développement durable, accessibilité, gestion et vue de l'entreprise. Aujourd'hui, vendredi 6 juin 2025, dans l'économie en direct, retour sur le salon CAPEB Grande Couronne, première organisation patronale du bâtiment, qui s'est tenue hier 5 juin à Saint-Ouen-l'Aumône et que nous avons eu le privilège de couvrir en direct. Beaucoup d'échanges qu'IDFM Radio vous partage à présent dans ce nouveau numéro de l'économie en direct. Élus, artisans, chefs d'entreprise, apprentis, retrouvez les témoignages de ces femmes et de ces hommes engagés et qui font la richesse de notre territoire. Bonne écoute.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Bienvenue à notre couverture exclusive du salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône qui se tient aujourd'hui 5 juin 2025. Un salon incontournable pour les professionnels de l'artisanat et du bâtiment où innovation et savoir-faire sont au rendez-vous. Un salon où nous sommes, comme toujours, très bien accueillis par toute l'équipe et le staff de la CAPEB. Et à mes côtés, Jean-Luc Sossois, président. Bonjour Jean-Luc, président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. Et Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. Donc merci à tous les deux d'avoir pris un petit peu de temps pour venir à notre micro. Jean-Luc, j'ai compris avec votre discours au moment de l'inauguration que la situation restait très compliquée pour les artisans du bâtiment.
Oui, tout à fait.
Je vous laisse développer ce sentiment.
Oui, notre mécontentement se poursuit malheureusement après 8 trimestres de baisse. Toujours, je vais répéter, mais une fin 2024 très compliquée avec moins 8 et moins 7,9% sur les deux derniers trimestres et moins 4,9% malheureusement sur le premier trimestre 2025. Donc ça confirme quand même s'il y a une très légère amélioration, mais ça confirme quand même qu'on est en baisse continue depuis de nombreux trimestres.
Oui, avec une situation politique instable, enfin en tout cas ces problèmes avec MaPrimeRénov' qui bouleverse tout, c'est ça ?
Tout est instable, politiquement c'est instable, géopolitiquement c'est instable, la réglementation par exemple sur MaPrimeRénov' est instable puisqu'on a un sujet brûlant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu ce matin un communiqué de la ministre Létard par rapport à MaPrimeRénov' avec une suspension du budget puisqu'on est arrivé à 1,3 milliard sur les 3,6 milliards qui étaient budgétés, donc on ne comprend pas, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un véritable coup de poignard dans le dos, puisqu'on a besoin de nous, on a besoin de la rénovation énergétique et finalement là on arrête.
Rien n'est fait pour
avec éventuellement une reprise, mais rien n'est acquis parce que ce ne sont que des promesses, une reprise au 1er septembre. Pour moi ça n'augure rien de bon.
Oui.
Rien de bon pour notre secteur. On n'avait pas besoin de ça.
Bien sûr, oui, je comprends, parce que depuis le début de l'année, vous n'avez de cesse de nous rappeler ces moments compliqués et difficiles.
La rénovation énergétique, c'est un marché porteur pour l'artisan du bâtiment, parce que nous sommes des artisans de proximité, évidemment. Nous savons travailler en milieu occupé, nous savons être interlocuteurs uniques pour le client, nous savons aussi monter dossiers malgré la complexité des dossiers, mais malheureusement, on coupe les budgets. Et c'est peut-être la même chose pour l'accessibilité, parce que là encore, c'est un marché qui est très porteur, sauf que si on ne nous fait pas confiance, si on ne donne pas les moyens d'accéder à ces marchés, on est bloqué.
Oui, la secrétaire générale de la préfecture du Val-d'Oise disait que c'était une pause parce qu'il y a trop de dossiers en cours et il y a beaucoup de fraude aussi qui vient déranger cette prime rénov.
Alors, c'est une pause, mais on a déjà eu une pause sur les règlements au début de l'année, par l'ANA. Donc, ça fait deux pauses, c'est une deuxième pause. Là, c'est une pause carrément budgétaire au niveau gouvernement. Mais les fraudes, On a fait des propositions pour combattre ces fraudes. On ne nous a pas écoutés, on ne nous écoute pas depuis des années. On propose des solutions de manière à faire des contrôles aléatoires, par exemple sur les chantiers. Ça n'a pas été retenu. Donc on laisse des gros opérateurs, ce que j'appelle les éco-délinquants, monter des dossiers, profiter de l'aubaine de l'argent public, avec de la sous-traitance en cascade derrière, qui fait que c'est mal fait, voire pas fait. Et c'est tout ce qu'on combat, nous aussi. Mais nous, on a fait des propositions qui n'ont pas été retenues, je le répète.
Oui. Alors, aujourd'hui, c'est votre salon de l'année, un beau salon où vous avez quand même beaucoup de public.
Beaucoup de public, et je remercie toute l'équipe de la Grande Couronne parce que c'est un travail d'équipe sous le pilotage du secrétaire général et secrétaire général adjoint.
Et vous aviez aussi beaucoup de personnalités, Madame Kavecki, la présidente du département, Monsieur Fargeau, le sénateur du Val-d'Oise, Benjamin Demailly, président du PNR du Vexin, Monsieur Puyot, Monsieur Schroun.
Monsieur Puyot qui a passé un beaucoup de gueule que je comprends et que je partage totalement, puisque lui aussi subit toutes ces réglementations qui ne cessent de changer, qui sont inapplicables en fait, parce que ça ne change tout le temps et pour le grand public c'est encore pire. Donc ça casse la dynamique de ces projets de dynamisation de la rénovation énergétique, ça casse les projets.
Oui, l'important c'est de faire comprendre que la rénovation thermique c'est une source de bien-être, ce que disait Monsieur Schroun, et qu'il faut surtout la considérer comme un investissement et non pas une dépense. Et c'est tout le sens du message que vous-même vous essayez de faire passer.
L'artisanat du bâtiment, c'est de l'emploi local, c'est effectivement du mieux vivre pour les habitants. Parce que ne pas avoir froid l'hiver, ne pas avoir chaud en été, c'est un confort. Et ça, c'est indéniable. Comme l'accessibilité, c'est la même chose, c'est un confort. Et donc, c'est du court terme. On fait du court terme actuellement. C'est ce que je reproche souvent, moi, aux politiques et surtout au gouvernement, c'est qu'on est souvent dans la décision en réaction.
Oui, c'est ça, ouais.
On n'anticipe pas. Il n'y a pas quelque chose qui vient en amont, sur un plan, sur des trimestres, voire des années, où on va plus loin, où on pense les choses, où on écoute les partenaires. Là, on ne nous écoute pas. Et en plus de ça, on est en réaction. Donc, on n'a plus de budget. Oh, bon, on coupe, on arrête.
Oui, c'est ça. Ouais,
on suspend.
Ouais. Sans voir toutes les conséquences qui vont en découler.
C'est catastrophique. Ouais. C'est l'emploi en moins. C'est la TVA en moins. C'est du bien-être en moins. Enfin, on peut parler d'argent, mais nous, on a fait des propositions, je le répète, je vous l'avais déjà dit, on a fait des propositions d'économie au niveau budgétaire, par exemple sur l'aide aux apprentis, puisqu'on estimait que ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'aux 250 salariés, que jusqu'à 1 à 50, c'était très bien. Il y avait, je crois, 50 millions à récupérer, on ne nous a pas suivis. On fait des économies dans un sens...
Pour faire des dépenses dans l'autre.
Et d'un autre côté, on ne nous soutient pas quand on fait des propositions qui sont constructives, pour le coup.
Alors, cette année aussi, sur ce salon, une innovation, vous avez fait venir des apprentis du CFA d'Hermont, avec plusieurs responsables de CFA, que j'ai pu interviewer, donc des très beaux témoignages de jeunes en reconversion. C'était important pour vous de faire venir ces jeunes sur ce salon ?
La CAPEB a toujours été partenaire de l'apprentissage. On sait très bien qu'on a besoin de transmettre nos savoir-faire, on sait très bien que les apprentis d'aujourd'hui seront peut-être les patrons de demain, et c'est à souhaiter. Et on a besoin de main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale, si on la forme, elle est toute trouvée.
Complètement.
Voilà. Et puis, moi, j'ai fierté. Du temps de mes parents ou de moi-même, j'ai formé des apprentis. J'ai des apprentis, des anciens apprentis aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise. Et tant mieux. Voilà. Transmettre. Continuez. Moi, je suis que de passage en tant qu'artisan à la CAPEB. Bah, voilà, il y aura des jeunes qui viendront à ma place, je le souhaite, très prochainement, et tant mieux.
Alors,
et on soutient tout ça.
Oui. Comment voyez-vous l'avenir, là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui ?
Je vous dis que, honnêtement, là, l'avenir est pas rose. Voilà. On ne voit pas d'éclaircie. On aurait pu entrevoir une éclaircie si on nous avait soutenu sur cette rénovation énergétique, sur l'accessibilité. Il n'y a pas d'éclaircie. Là, on vient de nous mettre une masse nuageuse au-dessus de nous. Vous avez en plus un climat économique qui est compliqué, puisque les Français aussi sont inquiets.
Oui, bien sûr.
Donc, quand le Français est inquiet, il épargne. Il ne dépense pas. Il ne dépense pas et il n'investit pas. Donc, c'est un problème. Et puis, vraiment... on a l'impression de ne pas être entendu. Et ça, c'est...
Oui,
on peut nous écouter, mais on ne nous entend pas. Et c'est ça qui est dommageable. C'est qu'une nouvelle fois, C'est l'esprit CAPEB. Hein. Nous, on fonctionne en terrain. On n'est pas du tout vertical. C'est le terrain qui, voilà. Je vous le dis, je suis pas, voilà, je suis le là en place, et il y aura de nouveaux artisans qui prendront ce poste prochainement, parce que c'est le terrain et c'est des remontées terrain. Et donc, on vit vraiment ça. On le vit. Et en ce moment, on vit assez mal ce qui se passe.
Oui. Et cependant, je tiens à le dire, vous nous le répétez à chaque fois, la CAPEB ne baisse pas les bras et le combat continue. Hein,
non, quel qu'il soit. On est force de proposition, une nouvelle fois. Je vous dis, bon, là, aujourd'hui, on a un coup de massue, mais on reviendra à nouveau pour proposer, pour évidemment essayer d'influencer un petit peu les futures décisions, et surtout une reprise très rapide du dispositif, parce que c'est ça qu'on doit obtenir aujourd'hui, hein, c'est que la suspension, ça mérite aujourd'hui une reprise rapide, et pas une reprise dans 6 mois, ça sera trop tard.
Ça sera trop tard,
ça va casser totalement la petite dynamique qu'il restait. Donc non, aujourd'hui, on va se battre pour la reprise.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc, et puis on vous souhaite que les choses s'arrangent dans l'avenir. Merci, merci infiniment. Merci. Alors Ludovic Mirmont, après ce discours de Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en tant que secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France ?
Ce que je peux ajouter, c'est par rapport à mon passé à la CAPEB, puisque ça fait plus de 35 ans que je suis à la CAPEB Grande Couronne, et des combats il y en a eu. On s'est battu à une époque contre la TVA sur une taxe additionnelle sur l'assurance construction, qu'on a réussi à faire disparaître. Puisque toute entreprise, même le peintre, il payait une taxe alors qu'il n'avait pas d'assurance décennale.
Ah oui.
Donc là, on s'était bien battu. On avait obtenu, on avait été manifesté à Bercy à l'époque. Donc c'était des beaux combats. Après, j'ai connu toute la période pour la TVA 5.5 qu'on a obtenue en 99, qu'on a réussi à sauver combat après combat, parce que ça, c'est la CAPEB quand même qui a obtenu cette TVA 5.5. D'autres n'y croyaient pas. Nous, on était convaincus que ça pouvait apporter un plus. D'ailleurs, ça a été le cas. On s'est battu en 2007, après on s'est rebattu en 2010 ou 2012. Et puis après, bon, petit à petit, les pouvoirs publics nous l'ont grignoté, cette TVA 5.5. Hein. Ils n'ont ramené qu'aux travaux, certains types de travaux. Après, bon, bref. Mais en tous les cas, c'est des combats qu'on a menés et qu'on a gagnés. Et si on les perdait une année, eh ben, on se battait
pour revenir à la charge
pour les obtenir. Parce que, comme j'ai déjà dit assez souvent, la CAPEB, c'est le bon sens, en fait. C'est le bon sens pour que les entreprises aient de l'activité, puissent travailler sereinement, et donc avec les marchés qui existent dans la concurrence, hein, parce que l'artisan du bâtiment n'est pas contre la concurrence, il est pour une concurrence saine et loyale.
Absolument, donc, voilà. Oui, c'est, on n'a rien contre la concurrence.
Voilà. Donc les entreprises artisanales du bâtiment, on fait en sorte qu'on puisse accéder au marché auquel on doit pouvoir accéder sans difficulté. Quoi. Donc voilà, il y a eu pas mal de combats, donc là c'est un nouveau combat effectivement qui s'annonce. Plus compliqué, parce que là c'est vrai que les changements sont quand même assez incessant. Moi, je me rappelle, il y a encore 15-20 ans, il y avait quand même une certaine stabilité.
Oui,
quoi.
Oui.
On était quand même sur un pouvoir qui avait pris des décisions. On se battait pour les infléchir. Bon, elles étaient ce qu'elles étaient. On savait sur quoi on partait. Là, maintenant, on ne sait même plus. Quoi. 6 mois après, ça peut changer. On nous dit en janvier, c'est comme ça. Puis en mars, on nous dit c'est plus comme ça. Et en septembre, on va dire c'est encore autrement. Donc, c'est quand même.
Ça
décourage. Quoi.
C'est
décourageant.
C'est
décourageant.
Oui,
donc, on se plaint que les entreprises, de moins en moins, si on revient sur notre salon de la rénovation énergétique, font de moins en moins de travaux liés à la rénovation énergétique. Sont de moins en moins qualifiés RGE, mais c'est sûr qu'avec des trucs comme ça, les entreprises artisanales. On dit les entreprises. Nous, ce qu'on met en avant aussi, c'est que les entreprises artisanales du bâtiment, elles savent s'adapter. Il y a un changement, il y a une nouvelle loi.
Elles sont agiles.
Elles sont capables de s'adapter dans l'autre sens aussi. Hein. On leur met des bâtons dans les roues, et bien elles vont dire, moi ces marchés-là, je me débrouille autrement. Mais à force de fermer toutes les portes, il y a un moyen, ça va commencer.
Il
faut qu'à un moment, il reste des pistes quand même pour les entreprises. Quoi. Voilà, donc j'ai connu plein de périodes avec... Personnellement, quand la CAPEB avait à se battre pour défendre des idées et porter, je trouvais que c'était
on était dans notre rôle,
quoi. Donc, c'est bien, ils font de temps en temps des erreurs. Ça nous permet
de rectifier le tir
et puis de montrer qu'on est là et qu'on, nous, on est dans, voilà, on défend les entreprises. Ça, c'est toujours été notre. Puis la CAPEB a 80 ans l'année prochaine.
Oui.
Donc je pense que là, ça sera un événement important et pour tout le réseau. Quoi.
C'est ça, la CAPEB reste, c'est la force d'un collectif hein, de 62 000 artisans du bâtiment qui bénéficient à toutes les entreprises artisanales du bâtiment.
Et première organisation patronale de France, je le répète, ouais. C'est toujours vrai.
Bon, bah écoutez, bravo en tout cas pour ce combat et puis ne changez rien.
Merci, merci à vous,
Jacqueline. Même si c'est pas facile. Merci à vous, merci.
On se battra toujours.
Merci pour votre accueil, merci infiniment.
Merci.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Yeah, yeah. Si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave.
Non.
Ça se bouscule dans ma tête, à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopée à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Marche, lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
IDFM Radio, le média valdoisien. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous sommes en direct à Saint-Ouen-l'Aumône pour le fameux salon de la CAPEB qui se tient tous les ans au mois de juin. À mon micro, Benjamin Schkroon. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner à notre micro. Alors Benjamin, je rappelle que vous êtes conseiller régional, vice-président à la commission économique et adjoint au maire de la ville d'Anguin à l'économie. Benjamin, merci donc d'être avec nous.
Avec plaisir.
L'économie en ce moment est compliquée. Enfin, la situation de la France est compliquée. Vous vouliez nous en dire quelques mots?
Oui, mais je pense que c'est les annonces du ministre de l'économie hier sur la suspension de ma prime rénov jusqu'à la fin de l'année. Tout simplement parce qu'en fin de compte, les crédits ont été consommés pour toute l'année à ce moment-là de l'exercice comptable de l'État. Et symptomatique, en fin de compte, des politiques publiques et de la gestion de la rénovation thermique en France aujourd'hui. C'est un élément essentiel. Je pense que c'est pas loin de 100 000 emplois qui doivent être concernés chez nos artisans, comme la CAPEB aujourd'hui. Mais c'est aussi la précarité énergétique, c'est aussi les factures d'électricité de nos concitoyens, c'est aussi le bien-être dans le logement, et bien sûr c'est une question d'élan durable. Cette politique, en fin de compte, moi je la suis depuis une dizaine d'années, elle change tous les ans. Tous les ans, on a une nouvelle réforme, on a un nouveau dispositif, etc., qui fait qu'en fin de compte, personne ne comprend rien.
Oui, c'est très compliqué.
Personne donne. Vous avez souvent la problématique en France du droit, de l'accès au droit. Il y avait le CESE qui avait fait un bon rapport sur l'accès au droit. Il y a plein de dispositifs en France sur lesquels on a le droit de démarger, comme on dit. Mais on ne sait pas que ça existe. Et MaPrimeRénov' et tous les dispositifs qu'il y a eu sur la rénovation thermique ont été trop compliqués. Et puis vous avez un élément tout bête. C'est que quand vous faites une rénovation thermique d'une copro, c'est long de faire voter les travaux par l'Assemblée Générale. On a tous assisté une fois à une assemblée de copro. Je pense que c'est l'organisation démocratique la plus compliquée qu'on puisse connaître.
Je pense aussi, oui.
Ce qui fait que c'est long. Mais quand vous avez présenté vos travaux le jour de l'Assemblée Générale, vous n'êtes pas sûr que les aides de l'État du jour J soient applicables le jour où vous allez lancer les travaux et que vous allez les demander. Et ça, je pense que c'est une vraie aberration. C'est une vraie aberration parce que ça ralentit ces dispositifs de rénovation. Et on a besoin de rénover le bâtiment, on a besoin de gérer ce patrimoine immobilier en France. Et ce changement de pied, à chaque fois, devient trop compliqué. Et je pense qu'il faut se poser, pas faire du one-shot comme on a fait avec MaPrimeRénov', avec des belles annonces, avoir une politique sur 10 ans, sur c'est quoi la rénovation, mettre autour de la table les professionnels pour pouvoir avoir une stratégie à moyen et à long terme sur la rénovation. C'est le vrai enjeu aujourd'hui. Pour moi, c'est un enjeu de bien-être. Vous savez, l'OMS dit que la bonne santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est un logement décent, un accès aux soins, etc. Là, je pense qu'il y a un vrai sujet de bien-être à avoir une politique à moyen terme de rénovation thermique des bâtiments.
Merci pour la clarté de ces propos. Alors, la question qu'on peut se poser, vous, en tant que conseiller régional, est-ce que vous avez moyen de faire remonter ces avis auprès de l'exécutif ?
Ben, nous, on a essayé de le faire aux côtés de l'État. Ça a été très compliqué. L'ANA, qui est l'agence nationale qui nous accompagne, avait des décalages dans le décaissement des aides, etc. Ça a été très compliqué. Et puis les efforts budgétaires ont fait que aller en plus de l'État n'était pas une priorité budgétaire pour la région, puisque ce n'est pas dans nos prérogatives. Donc on le fait pour le logement social, on accompagne les bailleurs sociaux pour la rénovation thermique. Mais chez les particuliers, c'est la prérogative de l'État, on laisse l'État faire.
Bien sûr.
Même si on voit aujourd'hui que l'État a du mal à faire.
Et alors, comment voyez-vous l'avenir de ce secteur ?
Je pense que là, l'avenir, il faut le partager et le co-construire. Je ne pense pas qu'on ait individuellement une réponse satisfaisante. Je pense qu'il faut mettre autour de la table les professionnels, les experts, pour avoir une vision claire, avec peut-être des crédits d'impôt, peut-être déduire. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire sans forcément verser une subvention. Mais comment on peut aider, en fin de compte, les ménages ? Il y a la TVA, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir un levier sans verser directement de l'argent. Et on sait que cet argent-là qu'on va investir, on investit dans un emploi non délocalisable qui paye des charges en France.
Voilà.
Mais il y aura aussi ce sujet qui était débattu à l'Assemblée nationale sur les auto-entrepreneurs. Je pense que la CAPEB en est très, très soucieuse, qui parfois font de la concurrence déloyale. Et donc il y a un vrai sujet là-dessus aussi sur lequel le Parlement devra se pencher.
C'est vrai que M. Sossoy nous en avait parlé lors d'une dernière émission. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes présent à ce salon. Je pense que c'est important pour la CAPEB. Vous allez échanger avec les exposants dans le discours que vous venez de tenir avec nous.
C'est vraiment l'objet de ma présence aujourd'hui. Mmh. C'est d'échanger, de parler et de s'enrichir de leur expérience
et de leur vision. Rassurer aussi, peut-être.
Rassurer à mon niveau. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas les clés pour pouvoir faire tout ce qu'on aimerait, mais au moins comprendre leurs problématiques, écouter leurs réponses. C'est important. Hein. On est parfois pas content, mais il faut aussi donner les réponses qui permettent d'avancer.
Bien sûr.
Pour pouvoir aussi les faire remonter. On a la chance aujourd'hui d'avoir des parlementaires qui seront présents sans doute, sur lesquels ils pourront, j'allais dire, assez directement, pouvoir aussi porter leurs revendications.
Oui, puis votre présidente, hein, Valérie Pécresse, on sait qu'elle monte facilement au créneau. Merci infiniment, Benjamin Schoen, d'avoir témoigné pour la sauvegarde de ces artisans. Merci infiniment.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Alors nous sommes toujours au salon de la CAPEB, aujourd'hui jeudi 5 juin 2025 à Saint-Ouen-l'Aumône. Et à notre micro, je reçois Célian Reverbel de la société Sferaco. Célian, je vous laisse vous présenter.
Oui, merci, bonjour. Voilà, je représente la société Sferaco, je suis le commercial pour l'Île-de-France. Donc Sferaco, c'est une société française basée à Saint-Quentin-Falavier, donc à environ 30 km de Lyon. Donc voilà, nous sommes distributeurs de produits essentiellement pour de la plomberie, sanitaire, chauffage. Donc voilà, des produits de la robinetterie, des compteurs, des raccords. Voilà, nous sommes vraiment spécialisés dans tout ce qui va être vanne, du plus petit diamètre, du 1 pouce, du 1 quart, pardon, aux vannes pouvant aller jusqu'à 2, 4 pouces, pour tout type d'application. Voilà. Donc que ce soit de la plomberie, du sanitaire, du chauffage, mais également voilà, pour le secteur également de l'industrie.
Et donc aujourd'hui vous êtes ici à ce salon de la CAPEB, c'est important pour vous d'être représenté dans une telle organisation ?
Oui, tout à fait. Cette journée va me permettre, avec mon collègue ici présent, Pierre Romden, qui est prescripteur Île-de-France et France, de pouvoir rencontrer les installateurs, les professionnels, les artisans, donc dans le milieu de la plomberie, du chauffage. Voilà, pour leur présenter notre gamme de produits de vannes et puis pouvoir échanger sur les nouveautés et pouvoir répondre à leurs questions sur leurs problématiques.
Vous êtes dans un secteur, j'imagine, assez concurrentiel.
Oui, tout à fait, bien entendu. Nous sommes pas seuls dans ce domaine. Il y a la concurrence.
Votre valeur ajoutée.
La valeur ajoutée de Sferaco. Je dirais tout d'abord, on a au siège, on a un magasin avec du stock.
Oui.
On a environ 45 millions de valeurs de stock.
Ah oui.
Donc on peut répondre très rapidement.
Dans l'immédiateté.
Voilà, exactement, dans l'immédiateté sur des produits très spécifiques et très techniques. Donc c'est la notoriété et le stock. Et puis la présence en effet terrain et puis une réactivité.
Très bien, on comprend mieux pourquoi vous êtes là aujourd'hui et on vous souhaite d'avoir de beaucoup, beaucoup de contacts.
Je vous remercie.
Merci infiniment. Merci.
IDFM, 98FM.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et nous sommes présents au salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône. À notre micro, Alexandre Pueyo. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Donc Alexandre, vous êtes conseiller départemental chargé du logement et plus précisément pilote du dispositif MaPrimeRénov' dans le Val-d'Oise. Alors je vous ai écouté intervenir là pendant l'inauguration de ce salon. Alexandre, on sent que vous êtes assez remonté sur les réformes de MaPrimeRénov' qui ne cessent de se succéder.
Bah oui, un peu dépité de l'annonce de cette suspension d'une offre pourtant essentielle pour la rénovation énergétique des logements. C'était vraiment une surprise et on ne s'attendait pas à cette annonce du gouvernement qui déstabilise un marché du logement et de l'habitat qui est déjà bien en crise. Donc oui, 14e réforme en 5 ans. Donc une réforme tous les 4 mois, c'est un peu embêtant.
Et donc, quelle serait votre action, vous, à votre niveau du département ?
Alors là, on attend très clairement l'État va nous annoncer dans le cadre de cette suspension. Donc ce serait une suspension qui ne durerait que 3 mois pour les particuliers, les collectivités et les différents copropriétés notamment pourraient continuer à déposer leurs dossiers. Les dossiers en cours vont être traités, donc ceux qui sont déjà déposés seront payés, mais on aurait cette suspension de 3 à 4 mois qui est une mauvaise nouvelle parce qu'on sait que ce sont des travaux de rénovation énergétique qui sont chers, qui sont compliqués à mener. L'État a aussi compliqué profondément le système, il y a 84 niveaux d'aide et évidemment face à ces coûts très élevés, il faut absolument les aides de l'État.
Bien sûr, ouais, je comprends. Merci Alexandre Pueyo de ce témoignage et puis on espère que les choses vont quand même s'arranger dans les semaines à venir.
Voilà, qu'on y comprenne surtout plus et qu'on ait de la stabilité en fait dans le dispositif qui nous permette et qui permette aux entreprises et aux particuliers qui souhaitent se lancer dans la rénovation énergétique de l'avoir de la visibilité.
Bien sûr.
Et de comprendre parce qu'on ne peut pas avoir 50% d'aide, puis 40, puis 60, puis pas. C'est pas possible.
C'est
donc c'est très important d'avoir ce côté stable et compréhensible pour les gens, moins de complexité administrative, et plus de visibilité financière.
C'était très clair. Merci infiniment.
Beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Sur la mer, au sang chaud, entre le chaos et l'hiver, j'ai tant de fous et de vipères sur la peau, où vont le silence des rivières. J'ai vu la lagune et l'enfer. Entre la falaise et l'hier, mon corps est tendu sur la pierre des sanglots, où vont les nuances des prières. Attendez-moi. L'océan.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct. Nous poursuivons nos interviews lors de ce salon de la CAPEP qui a lieu aujourd'hui, jeudi 5 juin 2025 à Saint-Ouen-le-Maune. Et à notre micro, David Fabre, secrétaire général du CFA BTP Île-de-France. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Merci d'être à notre micro. Alors David, vous êtes venu en renfort cette année avec des apprentis, des directeurs, du personnel du CFA. Pourquoi cette venue comme ça en force aujourd'hui ?
Alors d'abord parce que la CAPEB est un partenaire indispensable et crucial dans notre écosystème. Nous sommes des centres de formation d'apprentis. Nous avons 3400 apprentis en Ile-de-France, répartis sur 7 établissements, dont un CFA dans le Val-d'Oise à Hermont-Aubonne, 2 CFA en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis et Noisy-le-Grand, 2 CFA également en Seine-et-Marne, à Nangy et au Caire, un CFA dans l'Essonne, à Brétigny-sur-Orge, et enfin un CFA dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison. Donc la CAPEB est un partenaire indispensable pour le bon fonctionnement avec ses entreprises adhérentes, mais également dans les partenariats dits stratégiques de BTP CFA Île-de-France, en termes d'évolution des métiers, en termes de besoins d'entreprise, en termes également aussi de couverture des besoins en emploi. Donc on collabore et on travaille de main dans la main très régulièrement.
Alors on a entendu dans les discours qui ont été faits pendant l'inauguration que cette période était compliquée. Comment vous-même la ressentez-vous au niveau de vos établissements ?
Oui, alors en effet, on est percuté, nous, dans notre activité de centre de formation d'apprentis par des facteurs qui sont exogènes. Qui sont liés à la stabilité institutionnelle, donc gouvernementale, en termes de décisions, des hésitations, des retours en arrière. Donc on manque en fait de notions d'équilibre et sur la durée. Il y a d'autres facteurs exogènes, l'inflation qui nous percute également. Il y a également évidemment des tensions liées à l'énergie et cet établissement. Donc voilà, on est perturbé, impacté. Et avec un effet ciseau, puisque également l'apprentissage est aujourd'hui moins bien financé qu'il ne l'a été en 2020. Donc voilà, on est dans une période, effectivement, dans une configuration un peu délicate. On fait le dos rond et on espère passer cette vague avec le ralentissement en plus économique dans le BTP, sans trop de dégâts et rebondir dès la reprise, en fait. Donc on se prépare déjà à la reprise.
Il faut rester positif. Parlez-nous des formations que vous dispensez auprès de vos apprentis.
Alors les formations sont très larges, très diversifiées. Elles couvrent à peu près l'ensemble des filières du BTP. Nous avons presque 70% de nos publics qui sont en CAP, donc les premiers niveaux de qualification. Dans les métiers tels que la couverture, tels que la plomberie, le chauffage, l'électricité, la peinture, la métallerie, la menuiserie fabrication, la menuiserie installation, mais également des métiers de niche, comme la ferronnerie d'art, comme également les staffeurs ornementistes.
Donc, ça existe toujours.
Toujours au CFA de Brétigny. Donc il y a pas énormément d'apprentis, mais c'est une quinzaine quand même, et ça fonctionne bien, et on est heureux justement de contribuer à ces métiers de niche et de faire en sorte de pourvoir en main d'œuvre les besoins des entreprises de ce secteur.
Nous avons d'assurer une vraie transmission, parce que
on est vraiment sur le geste manuel, sur des savoir-faire assez exceptionnels, et effectivement avec en plus sur ces métiers-là une féminisation des métiers, donc pas mal de jeunes femmes qui nous rejoignent parce que c'est artistique, parce que c'est un métier 100% naturel aussi, le staff. Donc le sisal, le plâtre, ce sont que des métiers, des produits nobles. Voilà.
Alors, je suis contente que vous disiez qu'il y ait des femmes parce que j'ai vu parmi vos apprentis que j'ai pas vu de jeunes femmes aujourd'hui, en tout cas.
Ici, il y en a une en menuiserie fabrication justement et qui a été mise en relation avec une entreprise de la CAPEB, notamment pour sa poursuite de formation.
Très bien.
Donc il y a des jeunes filles en menuiserie, c'est vrai, mais également en peinture. Alors c'est vrai qu'elle ne représente que 5% de nos effectifs, mais la tendance est plutôt à la hausse. Donc on essaie de renforcer ce partenariat-là et c'est vrai que dès qu'une jeune fille frappe à notre porte, on y porte une attention particulière.
Comment avez-vous, quel sentiment avez-vous par rapport à ces jeunes qui vous ont accompagnés aujourd'hui ? Vous les sentez investis, intéressés ?
investi et intéressé, sont les bons mots, aussi avec un encadrement qui est sur le site, hein, donc voilà, qui coordonne l'ensemble de leur activité, qui les surveille un petit peu aussi parce qu'ils sont assez nombreux, une soixantaine, hein, donc ils peuvent être un peu remuants, voilà. Mais oui, ils sont contents d'être présents avec vous et avec nous, donc ça se passe bien. C'est aussi intéressant pour eux de sortir aussi de l'établissement, d'aller à la rencontre des entreprises, aller à la rencontre de vos partenaires, donc c'est concret, et puis ça leur ouvre aussi l'esprit, hein, sur une autre dimension du champ de la formation. Donc non, c'est très intéressant, très positif.
Est-ce qu'on peut dire que les perspectives de vos activités sont plutôt bonnes?
Alors,
comment le ressentez-vous?
Elles sont pas mauvaises. Mmh. Elles sont plutôt. On vise plutôt la stabilité, hein, sur l'année 2025, hein, qui est une année un peu de transition. On espère un effet rebond avec une reprise économique du BTP et de ces entreprises dans les prochains mois, et pouvoir en bénéficier. Si j'ai un message à adresser en tout cas aux entreprises, c'est que c'est le bon moment de former. Parce que dès qu'il va y avoir une reprise, de nouveau, ils vont manquer peut-être de vocation, de nouveau, ils vont peut-être manquer de compétences. Donc, si on ne les forme pas maintenant, ils ne les auront pas.
Oui, vous avez raison, voilà. il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Ouais.
Exactement, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tous on reste mobilisés, et en espérant une reprise de l'activité voilà, rapide, et puis surtout dans la durée.
Oui, voilà. Évidemment. Merci infiniment, David Fabre, secrétaire général du CFA BTP Île-de-France. Merci pour votre témoignage et puis bon salon.
Merci beaucoup.
Merci
de votre invitation.
Merci.
Au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
À présent, à notre micro, nous recevons Daniel Fargeau, sénateur du Val-d'Oise. Bonjour, monsieur le sénateur.
Bonjour, Jacqueline.
Merci d'être présent à notre micro sur ce salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, je crois que c'est une première pour vous, ce salon.
Exactement, c'est une première. J'avais rencontré la présidente de la CAPEB 95 et elle m'avait sollicité pour venir. Je suis là avec grand plaisir. Il est toujours important de participer à ce genre de forum et de soutenir aussi les organisations professionnelles et notamment pour le bâtiment, les petites entreprises qui ont bien besoin d'aide et de soutien.
On comprend que la situation, vous l'avez dit, le contexte est instable, la situation est compliquée. Pouvez-vous un petit peu résumer ce qui se passe en ce moment?
Bien, écoutez, effectivement, la situation française est instable, elle est contrainte, elle est difficile, et d'autant plus pour dans le cadre de l'activité économique. Vous savez que sans économie, pour ma part, il n'y a pas de vie. Il est important effectivement que chacun puisse contribuer à l'organisation de la société de par son travail, de par sa volonté à s'impliquer aussi, à s'investir et à créer toujours plus de valeur pour sa nation.
Alors vous l'avez souligné aussi, malgré ce contexte difficile, le point positif c'est l'emploi qui résiste.
Alors oui, alors je parlais du secteur du bâtiment, nous sommes à la CAPEB. Malgré effectivement le recul d'activité en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises, les petites entreprises, les TPE, les entreprises artisanales du bâtiment, il est quand même un point positif, c'est que effectivement en 2024, nous avons constaté un maintien de l'activité salariale, et ça c'est plutôt une bonne chose compte tenu de la situation. Je souhaiterais effectivement que nous puissions toujours contribuer davantage, notamment par la formation et l'apprentissage. Nous avons eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec les membres, le président du CFA d'Hermont.
Oui.
Et c'est plutôt un bon point. Voilà, il faut vraiment contribuer à l'attractivité des entreprises artisanales et notamment dans le bâtiment qui a pléthore de diversité d'activités, et c'est plutôt une bonne chose. Il faut rendre à cette profession ses valeurs et faire en sorte que les jeunes soient attirés par l'activité bâtiment.
L'institution que vous représentez, donc le Sénat, vous pensez qu'elle est vraiment en capacité d'aider à promouvoir le développement et les compétences de ce secteur ?
Alors oui, avec l'ensemble de mes collègues, puisque au Sénat, nous avons la chance de pouvoir travailler de façon transpartisane, même si chacun conservera ses postures politiques, ce qui est bien logique. Mais pour autant, nous sommes pour faire en sorte que l'activité économique puisse s'améliorer, puisse perdurer et surtout pouvoir la développer par rapport au contexte qui est le nôtre plus largement au niveau européen mais aussi au niveau mondial. On sait très bien quelles sont les contraintes aujourd'hui que nous connaissons avec les États-Unis, avec l'administration américaine notamment. Et il faut faire acte de rassemblement et fédérer l'ensemble des États européens pour faire un contrepoids et être là en présence contre à la fois l'administration américaine, mais aussi la Chine, qui par sa façon de faire et de contribuer à son rayonnement industriel, contribue aussi par ailleurs à la désindustrialisation française, alors que nous sommes fervents de la réindustrialisation. C'est vraiment ça l'objectif de demain pour l'économie française et pour l'économie européenne aussi.
J'ai compris que vous étiez vraiment à l'écoute de tous ces acteurs économiques et que vous n'attendiez que leurs propositions pour les transformer en amendements.
Oui, alors c'est pourquoi aussi je suis présent aujourd'hui. C'est pour apporter mon soutien à la CAPEB, mais plus largement à ses adhérents, donc au TPE du bâtiment, comme à d'autres secteurs d'activité, puisque le rôle aujourd'hui qui est le mien, dans les fonctions que j'exerce, c'est vraiment d'apporter du soutien pour aller de l'avant et toujours favoriser effectivement, moi, cette valeur travail. Je suis convaincu que par rapport au déficit budgétaire qui est annoncé de 40 milliards qu'il va falloir compenser.
Soutenir.
Écoutez, la première des... Alors évidemment, on va tendre vers des réductions de dépenses publiques ou des gels. Ça, c'est clairement défini. Mais pour autant, il faut participer à cette valeur travail et par l'emploi des personnes. Donc il y a des réductions aussi à faire peut-être par rapport à des prestations aujourd'hui qui sont permises. Et nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous savons très bien que nous sommes contraints et nous sommes conscients de l'effort considérable qu'il reste à faire à la France et aux Français.
Un effort de chacun.
Absolument. Chacun Merci. Doit contribuer à son niveau pour permettre de rétablir un petit peu les données et faire en sorte que tous ensemble nous puissions gagner ce combat qui est face à nous et participer au désendettement de la France et non pas à continuer à toujours instruire ce déficit.
Creuser le trou, oui. Merci infiniment, Monsieur Fargeau, pour
votre témoignage. Je suis toujours à votre disposition.
Eh bien, écoutez,
pour discourir avec vous.
Je le reçois avec grand plaisir. Merci infiniment.
Merci, Jacqueline.
Au revoir.
Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des comme des torticolis. Je vais entendre toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens, non ça vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filatou j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. J'suis le meilleur, elle le fait que son possible. J'dis à tout à l'heure, elle me dit j'serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. J'veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. J'veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir.
dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Tra, 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 tra. Y yo tra, 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 tra. Y yo tra, tra, tra. María, 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 dimos que tu veux faire dans le noir. María, 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 dimos que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 j'ai dit Maria. Maria, 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 j'ai dit Maria. Tu cuerpo, Maria, j'ai dit. Me muero, Maria, j'ai dit. Tu cuerpo, Maria, j'ai dit.
IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, l'économie en direct, toujours en direct du salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône et à notre micro, quatre intervenants. Donc Emmanuel Mayette, directeur du CFA d'Hermont. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Rémi Amalric, apprenti en reconversion du CFA d'Hermont. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Elena Rivron, apprentie en menuiserie au CFA d'Hermont. Bonjour Elena. Et Lucas Bedon-Marlang, du CFA d'Hermont également. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Et merci d'être à nos micros. Alors on va un petit peu jongler avec les micros parce qu'on n'en a pas suffisamment, mais on va s'en sortir. Je commence avec vous peut-être Emmanuel Mayette. Vous êtes directeur donc du CFA d'Hermont et vous avez tenu à nous présenter trois de vos apprentis. Je vous laisse nous dire pourquoi.
Eh bien, alors déjà, bonjour à tous. Nous, aujourd'hui, à côté de la CAPEB, avec la CAPEB sur ce salon, donc on a mobilisé quatre groupes en fait, d'apprentis pour pouvoir leur faire découvrir un petit peu ce coq emblématique, mmh. toutes les activités autour du coq. Donc il y a plusieurs groupes qui sont là aujourd'hui. C'est une cinquantaine d'apprentis mobilisés sur cette manifestation-là. Et puis l'idée, c'était de pouvoir faire découvrir un peu des parcours différents qui traversent nos CFA. Et Rémi, Elena et Lucas, en fait, ont tous les trois un parcours différent. Et pour différentes raisons, ils ont choisi d'intégrer un CFA dans le bâtiment. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir leur point de vue de pourquoi j'ai choisi en fait de rejoindre un CFA du bâtiment. Quelle orientation j'ai choisi pour en arriver là. Je trouvais ça vraiment intéressant, simplement.
Le fait d'être sur ce salon, c'est une première pour vous, avec vos apprentis ?
Alors, avec les apprentis, effectivement, c'est une première. C'était une volonté de travailler avec la CAPEB, en fait, sur ce projet depuis plusieurs mois, de pouvoir, comme je le disais, être à côté de la CAPEB et puis de pouvoir aussi faire profiter, en fait, faire découvrir aux apprentis ces activités autour du coq, ce que d'autres apprentis ont travaillé sur cette compétition du World Skills, notamment, et puis de leur faire rencontrer des partenaires, des fournisseurs avec lesquels ils peuvent déjà travailler, où ils travailleront, la PASS BTP aussi, la Pro BTP, cet ensemble de partenaires en fait, qui gravitent autour de nous, avec lesquels on n'a pas toujours forcément d'interaction.
Oui,
c'était
oui,
intéressant
oui.
de pouvoir travailler avec eux sur ce sens-là.
Très bien, ben, merci beaucoup pour cette présentation Emmanuel.
Merci.
Donc je m'adresse à Rémi. Rémi, donc, je vous ai présenté comme un apprenti en reconversion, donc expliquez-nous, je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour, ben, effectivement je suis en reconversion, j'ai 33 ans, pardon. Donc je suis un vieil apprenti, comme on pourrait dire.
Oui, si on veut, par rapport à qui
Pourquoi l'apprentissage? Pourquoi le bâtiment? Ça a été le fruit, on va dire, d'une réflexion personnelle sur qu'est-ce que j'ai envie de faire avant tout, là, personnellement. Et du coup, ça s'est porté sur le bâtiment parce que j'avais envie d'apprendre quelque chose de concret, un savoir-faire. Donc je me suis tourné vers la plomberie. J'aurais pu choisir un autre domaine, mais ça m'a paru...
C'est ce qui vous a tenté.
Voilà, exactement.
Avant, vous étiez dans quelle activité
J'étais dans la logistique hospitalière.
Donc, vraiment rien à voir.
Non, rien à voir. Je le suis toujours. J'ai bénéficié, et ça a été une chance, d'un dispositif de financement qui m'a permis, enfin, propre aux fonctionnaires hospitaliers, qui m'a permis d'entreprendre cette reconversion, cette formation. Voilà, j'en suis très reconnaissant. Et ça a été une chance.
Et après, je crois que ça fait 2 ans hein, que vous êtes dans cette
ça
formation.
Ça fait 2 ans, ouais. J'ai fait un CAP en une année, donc l'année dernière. Et cette année, je suis en BP première année. Et donc, le BP se déroule sur deux années.
Et donc, aucun regret d'avoir choisi cette nouvelle voie ?
Non, aucun. C'était moi, personnellement, pareil. J'avais personne dans ma famille dans le milieu du bâtiment. Donc, enfin... En fait, si, j'avais mon grand-père, mais si vous voulez, je connaissais vraiment...
Il n'y avait pas vraiment de transmission.
Voilà, exactement. Mmh. Et puis, je ne connaissais pas du tout le milieu. Non, c'est une très bonne découverte, enfin, une très bonne surprise. Mmh. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment l'envie d'apprendre un savoir-faire, savoir faire quelque chose de ses mains.
De vos propres
vraiment.
Mains, oui.
Voilà.
Quelle est la prochaine étape ?
La prochaine étape, finir ma deuxième année déjà, dans un premier temps. Apprendre le plus possible, continuer d'apprendre, parce qu'on apprend toujours. Continuer à se former, tout simplement, techniquement avant tout. Et je pense que quand je m'en sentirai capable, et puis que je considérerai que je serai capable de faire un travail de qualité, peut-être ensuite... démarrer mon activité moi-même. Donc,
c'est ça, vous mettre à votre compte, c'est votre but
exactement,
ultime. Ouais. Bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci infiniment,
merci,
Rémi,
madame.
Pour votre témoignage.
Merci.
Je donne la parole maintenant à Elena. Donc Elena, je m'étais un petit peu... questionner sur le fait, j'avais pas vu de jeune femme parmi les apprentis, mais vous êtes là, donc merci à vous d'être à notre micro. Donc vous êtes apprentie en menuiserie, c'est assez, je veux dire en tout cas pour des personnes de ma génération, ça peut être surprenant qu'une femme aille dans la menuiserie. Pourquoi ce choix ?
Moi, je suis aussi en reconversion et c'est vrai que je me suis orientée vers la menuiserie, je pense pas pour rien, parce que j'ai mon père et mon oncle qui sont menuisiers et du coup, ça fait un moment que je vois ça.
Ça vous plaisait ?
Et ça me... Oui, c'est ça, de faire comme Rémi, des choses avec ses mains, être en fait un peu la fierté de fabriquer par soi-même. C'est ça qui m'a vraiment...
Qui vous a attiré. Vous étiez dans quelle activité, vous, avant ?
Moi, j'étais je faisais une formation pour être enseignante.
D'accord.
De PS.
Ah oui, donc pareil.
Pareil,
vraiment,
rien à voir.
un virage à 360 degrés.
C'est ça.
Ouais. Et donc, vous êtes dans quel cursus, là, aujourd'hui ?
Donc, moi, j'ai fait un CAP, pas au CFA d'Hermont, au CFA de Nantes. Et là, du coup, je suis pour un BP au CFA d'Hermont pour 2 ans, donc en première année de BP.
Et donc, la suite de ce parcours, quel est-il ?
Pour l'instant, moi, ça va être potentiellement, normalement, ça devrait se faire continuer sur un CDI dans mon entreprise actuelle. Et continuer d'apprendre parce que pour le coup,
il y a beaucoup de choses
à apprendre en menuiserie. Ouais. Et là, je suis dans une entreprise assez sympa qui touche un peu à tout, donc qui est bien formatrice. Donc voilà.
Voilà, donc comme Rémi, aucun regret d'avoir choisi cette reconversion.
Non, se lever le matin et avoir. Pas forcément l'impression d'aller au travail, enfin de travailler.
Ah oui,
quoi.
C'est essentiel. C'est l'idéal.
Voilà.
Et votre père et votre oncle, comment ont-ils accueilli cette reconversion de votre part ?
Je vois mon père qui est assez, qui ne parle pas trop de ses émotions, mais je sais que qu'il est fier que sa fille fasse le même métier que lui.
Très bien. Écoutez, bravo, et puis plein de réussite pour la poursuite de votre parcours.
Merci.
Merci à vous. Et maintenant, je donne la parole à Lucas. Donc, Lucas, je vous laisse vous présenter également.
Bonjour. Moi, je m'appelle Lucas, je suis au BTP CFA de Hermont.
pour un apprenti de un apprentissage en CAP menuiserie aussi.
Aussi.
Avec ma collègue Elena qui est très sympathique. qui m'a appris parfois qui n'est pas souvent là dans les cours généraux car elle a un parcours complètement différent de moi. Mm-hmm. Donc elle m'aide parfois à réaliser mes œuvres en atelier.
D'accord. Vous êtes en quelle année là aujourd'hui ?
Première année de menuiserie.
Première année, oui. Et pourquoi ce choix de la menuiserie ?
Pourquoi ? C'est pas spécialement mes parents, ils sont loin d'être bricoleurs, mais c'est plus vers mes deux grands-pères.
Oui.
Dont un qui est malheureusement décédé, mais disons que c'est un hommage que j'ai envie de leur rendre, car ils n'ont pas réussi à céder à tous ces métiers-là.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est d'autant plus touchant que vous puissiez aujourd'hui suivre leur voie. La suite de votre parcours ?
La suite, je verrai plutôt finir mon CAP ici. Et pourquoi pas un BP dans les compagnons du devoir. Et peut-être par la suite, essayer d'ouvrir ma propre entreprise.
D'accord. Bon, bah écoutez, je crois... merci beaucoup, Lucas.
Pas de souci.
Je crois, Emmanuel, que là, vous avez vraiment trois beaux exemples qui illustrent la qualité de votre CFA.
Il y a que des beaux exemples, ouais. En fait, au CFA. Ils ont tous des parcours, en fait, différents. Il y a beaucoup d'émotions quand on les entend, en fait,
oui,
dans les raisons, en fait, qu'ils ont poussé, en fait, à choisir cette formation. Nous, en tout cas, en tant que CFA, on essaie chaque jour de leur apporter, en fait, le plus de développement de compétences possible et de savoir ce qu'ils ont beaucoup de demandes, ils ont envie de beaucoup apprendre. Et ce qui est bien, c'est très motivant de voir cette jeunesse. Bah, qui a envie de se lever le matin et qui se lève et qui a envie de bosser. Donc on se doit, nous aussi, d'apporter les meilleures solutions et ça nous pousse aussi
dans nos retranchements. De continuer à leur donner ce goût
exactement,
de la perfection.
Donc ouais. C'est aussi très, très stimulant pour nous. Donc on est très contents.
Je ne vous ai pas posé la question. Vous-même, vous êtes dans ce milieu de l'artisanat, Emmanuel, au départ ?
Pas vraiment. Je connais le bâtiment depuis très longtemps. J'ai un père qui a travaillé dans le bâtiment, donc c'est pas un milieu qui m'est complètement différent. Mais j'étais dans d'autres activités, toujours dans la formation en tout cas. La formation en fait est pour moi quelque chose. La formation en alternance et en apprentissage.
Oui,
c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive. Donc là, je suis dans le bâtiment et c'est très très bien. On découvre beaucoup de choses. Oui, parfaitement.
Mais écoutez, Emmanuel, j'espère qu'on en a parlé un petit peu hors micro. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir.
Nous aurons l'occasion
peut-être d'approfondir toutes les qualités que le CFA d'Hermont propose.
Mais on vous attend au CFA.
Très bien, bah avec grand plaisir. On viendra.
Alors à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois, à tous les quatre. Merci infiniment.
Merci.
Et bon salon.
Merci. Merci.
De la vie, je ne prends que la Dolce Vita, c'est tout. M'en voulez-vous ? De l'amour, je n'attends qu'une main sans la Paco toi. Comprenez-vous ? Ouh, oh, oh, oh. D'Indiens, c'est tout. M'en voulez-vous ? Des empereurs de Rome, les lauriers et le vin, pas l'or, ni les bijoux. Ouh, oh, oh, oh. M'en voulez-vous ? Oh, oh, oh. De mon enfance, je n'ai gardé dans le cœur que l'insouciance de ces crayons de couleur. Ça me suffit pour dessiner qui je suis. Ça me suffit pour m'inventer d'autres vies. De la vie, je ne prends que la Dolce Vita, c'est tout. M'en voulez-vous ? De l'amour, je n'attends qu'une main sans la Paco au doigt. Comprenez-vous ? Je n'ai pris que le
c'est un soir, les promesses des voyageurs. Ça me suffit pour décider qui je suis. Ça me suffit pour m'inventer d'autres vies. De la vie, je ne prends que la Dolce Vita, c'est tout. M'en voulez-vous ? De l'amour, je n'attends qu'une main sans la bague au doigt. Comprenez-vous ? Ouh, oh, oh, oh. M'en voulez-vous ? Ouh, oh, oh, oh. Du marin, je ne prends que les retours, pas les adieux. M'en voulez-vous ? Des mille et une nuits, seul auprès d'un cracheur de feu. J'ai rendez-vous.
IDFM, 98FM.
À notre micro, maintenant, j'accueille Benjamin Demailly, président du PNR du Vexin, et Marie-Pierre Chalmel, présidente de la CAPEB du Val d'Oise. Donc bonjour Marie-Pierre, bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Marie-Pierre, donc vous êtes élue présidente de la CAPEB 95 depuis plusieurs mois maintenant.
Oui, bientôt une année.
Quel recul avez-vous depuis cette année sur votre fonction de présidente ?
Une position très intéressante où j'apprends tout plein de choses, qui me permet d'être en contact avec des politiciens pour faire remonter toutes les problématiques que nos artisans rencontrent, qui sont lourds en conséquences en ce moment, qui évoluent constamment.
Oui, on a compris que en ce moment la situation est compliquée, avec beaucoup d'instabilité, et vous devez faire face à ça avec vos adhérents forcément.
Beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui changent constamment, pour lequel on est là justement pour les informer, les tenir régulièrement et constamment sur les nouvelles dispositions que le gouvernement donne.
Oui, 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 parce que forcément les artisans sont décontenancés, ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe.
Oui, et ce qu'il faut vous-même, mettre en place de leur côté.
Vous êtes artisan et moi, donc vous pouvez témoigner.
Absolument, mon mari est artisan, il est charpentier. Dans notre profession, ça change un petit peu moins parce que nous ne sommes pas RGE, donc moins sollicités à ce niveau-là. Mais on revendique sur d'autres points, style par exemple la TVA des auto-entrepreneurs, sur d'autres points. Et on est entendu auprès de nos politiciens.
On a compris en écoutant M. Pueyo, M. Fargeau, M. Sossois, bien sûr que quand même vous, chacun est à l'écoute et essaie d'œuvrer à son niveau.
Chacun essaye d'œuvrer à son niveau, oui. Le mien, c'est d'écouter tous les artisans qui sont dans notre département et puis ensuite de les faire remonter auprès de nos politiciens et puis auprès de notre président Jean-Christophe Repon pour que lui aussi le fasse remonter auprès
de l'exécutif.
Absolument.
Ce salon est une réussite, hein. Vous avez quand même beaucoup de visiteurs.
Donc absolument.
Ça, c'est vraiment le point positif dans cette situation compliquée.
Oui, du beau monde, des beaux représentants qui ont bien compris, fait de beaux discours et bien compris les problématiques que nous rencontrons pour le moment. Et puis, effectivement, beaucoup d'artisans qui viennent à la rencontre pour savoir... Les nouvelles règles qui vont être mises.
Il y a nos nouvelles, oui.
Les nouvelles lois qui vont être mises sur les mois à venir.
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci de votre présence à notre micro. Merci à vous.
Merci à tous de m'avoir écouté.
Benjamin, donc vous, président du PNR du Vexin, merci d'être à notre micro. Benjamin, que vient faire un président du PNR du Vexin dans un salon de la CAPEB du 95?
Il s'est perdu, il a traversé l'Oise, vous rendez-vous compte? Non, mais c'est normal de pouvoir venir, qu'on est disponible, puisqu'en fait, le parc qui a 30 ans a une longue et belle histoire avec la CAPEB. En cherchant un petit peu dans les archives, on a trouvé une relation qui existe depuis 1997.
D'accord.
Donc pour un parc qui existe depuis 1995, c'est une belle histoire.
Oui.
Et l'un des derniers sujets en date, d'ailleurs, c'est la participation de la CAPEB sur le projet qu'on appelle la plateforme d'éco-construction qui se trouve à Vigny, au bord de Vigny,
oui.
Dont l'objectif en fait est d'avoir un espace de pédagogie, de communication et de formation sur justement le savoir-faire et l'artisanat du bâtiment et notamment de notre patrimoine bâti, puisque le Vexin étant le plus beau PNR de France tire sa beauté justement de son patrimoine bâti qui nécessite un savoir-faire traditionnel et artisanal pour préserver nos murs en moellons qui sont des murs en pierre, qui du coup demande quand même un savoir-faire, parce que l'une des premières actions, justement, c'était de former des professionnels qui avaient pris l'habitude de mettre du béton sur les murs en pierre, et sauf que ça dégradait justement les pierres.
Oui. Donc c'est quelque chose qui... contre-productif.
Mais c'était on va pas juger, c'était aussi la mode de l'époque, c'est le retour d'expérience qui a fait que... Et donc, nécessairement, au-delà de ça, la CAPEB reste pour nous un acteur du territoire. On parle aussi de corps intermédiaires, puisque il ressemble l'ensemble des acteurs représente des professionnels du bâtiment. Et justement, le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments, de l'entretien des murs, sont des sujets qui sont très importants pour nous, parce que préservation du patrimoine, préservation de l'environnement, et de le faire en cohérence, c'est tout à fait logique et normal, c'est notre raison d'être. Que le bâtiment, c'est aussi des emplois.
Oui.
Des emplois directs, des emplois locaux. Les élus que je représente ont toujours à cœur de travailler avec nos voisins, quelque part, ceux qui travaillent à Henry, ceux qui travaillent à Magny, ceux qui travaillent à Marine ou même à Vigny, parce que c'est des gens qu'on connaît de vue, mais aussi de savoir-faire. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est aussi important. Et puis, j'allais mettre la phrase au passé en disant que nous étions associés à France Rénov, mais on reste associés, on travaille main dans la main sur justement le principe de Valoise Rénov, de travailler et de pouvoir échanger pour, d'une manière ou d'une autre, faciliter justement ce travail dans le bâtiment de rénovation, de construction sur un territoire qui reste le territoire le plus grand site inscrit de France, avec une concentration de monuments historiques qui reste très importante. C'est des contraintes, mais c'est aussi comment dirais-je, c'est un héritage et on doit en être digne aussi. Donc c'est aussi une fierté qu'on doit avoir et l'exigence qui va de pair. Et je pense que tout ça va aussi dans le bon sens
dans
et qu'on
bon
partage
sens.
Aussi ces valeurs-là.
Voilà, on comprend mieux pourquoi vous êtes présent donc aujourd'hui à ce salon de la CAPEB. Des mots forts ont été prononcés tout à l'heure à l'inauguration, rénover au lieu de détruire. Donc vous êtes complètement dans cette... logique.
Dans cette dynamique, oui, bien sûr. Surtout quand on a des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale très importante. Ensuite, des fois, on est amené aussi à détruire. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette phrase, c'est... comment dirais-je, il va m'en vouloir parce que je viens de filer le slogan au président de la CMA. Il y avait une formule qui a été dite cette semaine, c'est les artisans promeuvent depuis longtemps l'IA. Pas l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artisanale. Et quand on a affaire à des professionnels, c'est aussi ce savoir-faire. Des fois, on a l'impression que c'est de l'instinct, mais c'est aussi de l'expérience sur tel projet, tel produit. Il faut vraiment faire ceci, il faut vraiment faire cela. parce que le terrain il est exposé au sud, parce que le terrain est humide, parce que tout un tas de choses. Et donc, au-delà de cette formule, c'est vraiment la réflexion que l'on a sur les projets, parce que des bâtiments, quand on les rénove, quand on les construit, c'est pas pour 10 ou 20 ans, on a tendance à tout vouloir jeter en ce moment. Mais on a besoin de cette réflexion pour avoir des projets qui sont pérennes, qui durent 50, 80, 100 ans.
Oui, c'est ça, c'est toute la richesse du savoir-faire et de la transmission. C'est un mot qui revient souvent quand on interview des gens tels que vous et de ce salon de la CAPEB. Merci de votre venue à nos micros et puis très bon salon pour aujourd'hui à Saint-Ouen-l'Aumône. Merci Benjamin, merci Marie-Pierre.
Merci beaucoup.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous reprenons ces interviews au salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône, aujourd'hui jeudi 5 juin. Et à notre micro, à présent, Patrick Garcia de ProBTP, responsable développement, et Zakaria Achiban, conseiller artisan de l'entreprise ProBTP également. Bonjour Patrick, bonjour Zakaria.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Alors Patrick Garcia, je vous laisse vous présenter.
Voilà, donc je suis responsable développement à ProBTP. Donc ProBTP qui est bien connu notamment auprès de la CAPEB puisque nous sommes partenaires de la CAPEB depuis toujours. ProBTP en fait c'est la protection sociale du bâtiment. C'est-à-dire qu'on s'occupe notamment de la prévoyance des entreprises et donc des salariés du bâtiment, ainsi que de la santé, et on s'occupe aussi de la retraite, donc aussi bien, comme je vous le disais, des salariés du bâtiment et évidemment des chefs d'entreprise, puisqu'on accompagne les chefs d'entreprise, quel que soit leur statut, qu'ils soient travailleurs salariés ou non salariés, dans le cadre également de leur protection sociale, donc comme je le disais, tout ce qui est prévoyance, santé, retraite,
d'accord,
notamment, et on a également beaucoup d'autres services qu'on peut leur proposer au travers notamment de nos agences et on les accompagne aussi sur leurs contrats particuliers.
Donc voilà. Votre présence sur ce salon, elle est incontournable.
Notre présence, elle est incontournable puisqu'on veut être effectivement, c'est aussi l'occasion de venir à la rencontre de nos adhérents. Il faut savoir aujourd'hui que la grande majorité des entreprises du bâtiment sont adhérents à ProBTP pour leur prévoyance et la grande majorité aussi pour leur mutuelle. Donc pour nous, c'est l'occasion de venir à leur rencontre et puis de rencontrer aussi nos équipes, nos partenaires, d'être aux côtés de la CAPEB à chaque événement auquel on peut être convié, nous sommes présents.
Très bien. Et vous, Zakaria, alors vous avez cette particularité d'être conseiller artisan. Pareil, votre présence ici sur ce salon ne pouvait pas ne pas avoir lieu.
Tout à fait. Je suis ravi d'être au salon encore cette année. ProBTP, comme l'a dit Patrick, est présente au salon en tant que partenaire depuis plusieurs années. Ma présence au salon aujourd'hui, c'est pour rencontrer les partenaires, rencontrer nos clients.
Oui, créer de nouveaux contacts.
Voilà, créer les clients qui nous connaissent, qui viennent nous voir. Ceux qui ne nous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, ils viennent nous voir aussi. En tout cas, on est ravis de les rencontrer, de leur apporter un conseil aujourd'hui. Et ça crée aussi des opportunités pour se revoir dans un deuxième temps.
Bien sûr.
Il y a des rendez-vous. Il y a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des questions sur des sujets particuliers. Donc, on reprend un rendez-vous et je repasse les voir. Des clients à qui on peut répondre tout de suite parce qu'on est équipé. Mmh. Et donc, on les accompagne avec grand plaisir. Sinon, pour ce qui me concerne, je suis conseiller entreprise sur le département du 95, 77 et 93. Je vous rassure, je ne suis pas seul, on est quatre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui porte les couleurs
c'est
de la maison.
Oui.
Et donc, on est toujours ravis d'être présent à la CAPEB pour représenter ProBTP, qui est un partenaire de longue date.
Voilà. ProBTP, dont le siège se trouve à quel endroit ?
Alors, le siège est... Nous, le siège régional est sur Vanves.
Oui.
Donc, puisque ProBTP fonctionne en région, en fait. Hein. Et donc, nous venons de Vanves, qui est le siège pour l'Île-de-France. Mais ProBTP est présent partout en Île-de-France, au travers notamment de ses agences, puisqu'on a plusieurs agences. Donc, on en a une notamment dans le Val-d'Oise, qui se situe à Argenteuil, notamment. Et on a notre présence également à Cergy. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Au travers d'une permanence. Donc, on est présent au plus près, avec la particularité aujourd'hui de ProBTP, puisque ça devient de plus en plus rare dans nos métiers, c'est que nos chargés d'affaires vont se déplacer dans les entreprises.
Ah oui.
Donc, on tient à ce maillage et à ce réseau. Donc, on va dire que les agences vont plus s'occuper des contrats pour les particuliers et nos chargés d'affaires, que ce soit les conseillers en artisans ou des, ce qu'on appelle les délégués départementaux,
plus professionnels,
vont se déplacer directement dans les entreprises, ce qui nous permet d'être vraiment aux côtés des entreprises. C'est vraiment l'objectif et on tient absolument à garder ce contact humain dont nos entreprises aussi sont friandes. Voilà.
Dans un contexte dont on a compris qu'il était difficile en ce moment, est-ce que vous sentez une recrudescence d'adhésion dans votre entreprise?
Vous disiez d'adhésion?
De contrats qui sont signés?
Alors, nous, on fonctionne beaucoup en fonction des créations d'entreprises aussi.
Oui. Ah oui.
Donc, des créations d'entreprises, il y en a tout le temps. Malheureusement, il y a aussi pas mal de défections d'entreprises en ce moment. Oui. Donc, on est directement impacté en tant qu'institut de prévoyance, puisque moins il y a de salariés du bâtiment, moins on va avoir d'adhérence, ce qui est très important pour un institut de prévoyance. Donc, malheureusement, on est confronté à ces problématiques qu'ont directement nos adhérents du bâtiment. ProBTP, grâce à une bonne gestion depuis qu'elle existe aujourd'hui, est solide et c'est ce qui nous permet d'accompagner vraiment au mieux tous nos adhérents, que ce soit en prévention ou en santé. Donc de ce point de vue-là, on est un partenaire solide. Par contre, bien évidemment qu'on est directement impacté par les difficultés qu'ont en ce moment nos adhérents du bâtiment.
Oui, je crois que j'ai dû lire que les défaillances étaient en forte hausse. Les chiffres du tribunal de commerce sont pas, en tout cas celui de Pontoise, ne sont pas très bons.
Elles sont en forte hausse. Alors, il est trop tôt pour faire le bilan de 2025, bien évidemment. Pour autant, on le ressent et on ressent au travers des contacts qu'on a simplement
que vous avez
adhérents
même aujourd'hui,
qui ont eux-mêmes des difficultés qu'ils nous font, dont ils nous expliquent effectivement que alors là je vais pas reprendre tous les discours qu'on a pu entendre depuis ce matin, mais en tout cas on le ressent au travers des échanges qu'ils ont. Après nous on voit toujours le verre à moitié plein et aujourd'hui il y a des besoins et socialement on est un organisme social, donc c'est important dans les difficultés qu'elles peuvent avoir d'être à leur côté, et là on joue pleinement notre
aujourd'hui
rôle.
C'est plus que nécessaire.
Voilà, aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que ProBTP se démarque notamment des acteurs du marché par une très très forte proposition d'action sociale, c'est-à-dire de services qui sont associés et dont peuvent bénéficier toutes nos entreprises adhérentes. Et l'action sociale, c'est très important aujourd'hui à ProBTP. C'est ce que nous, on explique à tous nos chefs d'entreprise, aux salariés des chefs d'entreprise, quand on a l'occasion de les rencontrer, pour que justement, au travers de ces difficultés ou des difficultés personnelles qu'ils peuvent avoir, par exemple, nous, on fait beaucoup d'aide aux aidants. C'est un vrai sujet en ce moment d'actualité. Et voilà, on a tout un panel de services sur lesquels on peut les accompagner. Donc, au-delà du côté économique, il y a aussi le côté social. Et c'est là qu'on doit jouer notre rôle.
Oui, une vraie valeur ajoutée dans votre organisation.
C'est ce qui fait notre différence aujourd'hui.
Zacharias, c'est le message que vous passez auprès des artisans lorsque vous les rencontrez?
Tout à fait. Pour rebondir sur ce que venait de dire Patrick, effectivement, on voit plutôt le verre à moitié plein, parce que comme il y a des défaillances d'entreprise, il y a aussi des créations d'entreprise. Et on accompagne aussi bien nos clients dans les moments difficiles, aussi, mais dans les bons moments. Oui. Donc, on est là pour les accompagner. Il y a de la création d'entreprise, on les voit. On est à la source en tant qu'acteur économique, au plus proche de nos clients. On est présent pour les accompagner. Ils sont contents de nous voir et ça se passe très très bien. Voilà.
Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être venu à notre micro. Et
merci de votre accueil.
Bon salon. Le temps n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais pour le moment, il n'y a pas de pluie, donc tout va bien.
Tout va bien. Merci à vous.
Beaucoup. Merci
bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Donc voilà, cette journée du salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône se termine. Quelques mots quand même pour préciser que la CAPEB en Île-de-France, c'est l'artisanat du bâtiment qui représente 65 000 entreprises, 125 220 salariés qui travaillent dans ces entreprises du bâtiment, des entreprises de moins de 20 salariés, soit 55% des effectifs salariés du bâtiment. C'est un secteur qui réalise un chiffre d'affaires annuel en Île-de-France de 16 millions d'euros, soit 48% du chiffre d'affaires dans le bâtiment. Et c'est aussi un secteur qui forme 70% des apprentis du bâtiment. Autant dire que la CAPEB reste un acteur incontournable dans ce secteur du bâtiment. La CAPEB Grande Couronne Île-de-France couvre les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Notre émission est terminée. Merci encore aux dirigeants de la CAPEB pour leur accueil. Et on merci d'avoir réuni tout cet écosystème qui ne peut générer que de la réussite parmi les entreprises, malgré tous les soucis que nous avons évoqués au cours de ce salon. Merci à tous d'avoir été à notre écoute. Merci Francky pour la technique. Retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite pour une nouvelle émission. Belle journée et bon week-end.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Elle se lève était un rêve ou un mauvais film. Une Italienne, il était son homme, son essentiel. Lui il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle l'a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais mal honnête. Mamma mia, que j'étais bête. Voilà libre, je serai la reine son roi. Oh oh, je serai la reine son roi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh. Elle s'habille, deux ans défile. Était-elle aveugle ou bien débile? Que chaque homme est un animal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais mal honnête. Mamma mia, que j'étais. Comme est un animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal habile, mais mal honnête. J'ai des mamma mia, que j'étais.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Venez participer à Champs en Fête, le comice agricole de Gisors. Un week-end pour découvrir l'agriculture en famille. Le samedi 14 et dimanche 15 juin de 10h à 18h. Deux journées pleines de découvertes au cœur de l'agriculture et des traditions locales, avec une mini-ferme, du théâtre, un marché de producteurs et d'artisans, une guinguette, des tours de tracteurs, déambulation de chiens de troupeau, des expos, une structure gonflable, des dégustations et bien plus encore. Champs en Fête à Gisors, route du Bois-Gelou. Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'infos sur les réseaux sociaux Champs en Fête ou sur idfm98.fr.
IDFM Radio, 98FM.
Et si votre bien-être commençait aujourd'hui ? Chez Tandem Santé, on fabrique depuis 1996 des compléments alimentaires naturels, efficaces et surtout de grande qualité. Commandez en ligne sur tandem-santé.com, recevez votre colis en 24 à 48 heures ou passez le prendre directement à Montlignon, au cœur de la nature, grâce au Click and Collect. En prime, profitez d'une balade au vert et de 10% de réduction avec le code RADIO, R-A-D-I-O, jusqu'au 30 juin. Tandem Santé, des solutions naturelles proches de vous et de vos besoins.